Transatlant Queer. Des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Gérard.
Salut Christophe Gérard à Paris, comment ça va?
Ça va bien, merci. Et toi?
Oui, ça va bien. Alors, les sénateurs de la droite travaillent actuellement sur un projet de loi, on parle des sénateurs français, évidemment, visant à interdire les traitements hormonaux et les bloqueurs de croissance aux personnes transmineures.
Oui, alors les sénateurs, les républicains majoritaires au Sénat et connus pour leur conservatisme, ont lancé en mai 2023 un travail autour de la question de la transidentité chez les plus jeunes. Et ils ont présenté en mars un projet et un rapport, et donc un projet de loi à venir présenté donc au Sénat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le choix des interlocuteurs pendant leur travail, leurs conclusions et leur présentation auprès des médias sont pour le moins déroutants. Alors, les auteurs du rapport, intitulé Rapport sur la transidentification des mineurs, avec à sa tête Jacqueline Eustache-Brignaud, souhaitent empêcher, en effet, aux moins de 18 ans, de pouvoir accéder aux bloqueurs de puberté, aux traitements hormonaux et aux chirurgies de réassignation, dénonçant au passage ce qu'ils dénoncent comme donc un scandale éthique concernant la prise en charge des personnes trans mineures. Ce qui fait craindre aux associations donc l'effacement tout simplement des enfants trans.
Alors, qui est à l'origine ou qui est à la tête de ce groupe de travail, là, à l'origine du rapport?
Bien, comme je le disais, c'est la sénatrice du Val d'Oise, Jacqueline Eustache-Brignaud, qui on peut la qualifier du genre réac. Hein. Il suffit pour s'en persuader de voir ses faits d'armes politiques hein, qui en disent long sur sa façon de voir les choses. Il faut savoir qu'en effet, elle s'est abstenue lors du vote de la loi interdisant les thérapies de conversion. Et plus récemment, elle a voté contre l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution.
Donc, on voit d'où elle vient. Elle se le dit, là, c'est quoi qui motive ces sénateurs?
Alors, selon eux, il y a une hausse croissante des demandes de transition chez les mineurs.
Ah bon. Alors, et cette augmentation, c'est réel?
Bah, je dirais oui et non, hein, parce que si on se base sur les études internationales, le nombre d'enfants et d'adolescents qui se déclarent transgenres s'élève entre 1,2 et 2,7%. En France, il n'y a pas de décompte de demande de transition chez les mineurs. Donc un tel décompte, en tout cas de tels chiffres, ne sont pas possibles à démontrer. Toutefois, hein, tous les acteurs de la question trans s'accordent à dire que même si les demandes de mineurs restent rares, elles sont en effet en hausse. Les seuls chiffres dont on dispose en France, ce sont en fait le nombre de personnes, de nombre de bénéficiaires pardon, d'une affection de longue durée pour transidentité, qui est un statut chez nous qui ouvre le droit au remboursement de certains soins. Donc, en 2020, ils étaient 9 000 personnes à bénéficier de ce statut pardon, dont 294 mineurs, ce qui est vraiment peu finalement.
Bon, à l'heure actuelle, là, comment ça se passe pour une personne transmineure en France?
Alors aujourd'hui, quand on diagnostique chez un mineur une dysphorie de genre, celui-ci peut se voir prescrire des bloqueurs de puberté dès la préadolescence, puis bénéficier d'un traitement hormonal à partir de 16 ans. En ce qui concerne les chirurgies de réassignation, elles ne sont pas accessibles avant l'âge de 18 ans, à l'exception de la torsoplastie, qui dans certains cas peut être autorisée pour des adolescents. Alors bien évidemment, ces procédures sont lancées après une discussion entre les jeunes et l'ensemble des équipes médicales et avec l'accord des parents. Il faut savoir qu'actuellement en France, il y a 18 services qui sont spécialisés dans l'accompagnement de personnes en transition. Et selon les chiffres qui ont été rapportés par les chefs de service auditionnés par le groupe de travail, les jeunes trans qui s'engagent dans un parcours médical restent minoritaires. La plupart du temps, en fait, c'est à la transition, elle va s'effectuer plus dans la sphère sociale, donc en famille, à l'école, donc en adoptant notamment une expression de genre différente. Ça passe par le changement de prénom, des pronoms, du style vestimentaire ou de la coiffure.
Bon, on en a parlé ici au Québec, j'imagine que ça ressemble un peu à ce qui se passe en France. C'est quoi les risques de la transition des mineurs mis de l'avant là, dans ce rapport?
Alors, l'argument principal hein, qui est mis en avant et qui est d'ailleurs contesté, c'est le risque de regret.
Ouais.
C'est pourquoi en fait les élus LR recommandent de revenir à la fois sur le volet médical, mais également social des transitions de genre des mineurs. Les sénateurs estiment que la France devrait interdire l'ensemble des actes médicaux liés à la transition avant 18 ans. Et le rapport critique d'ailleurs hein, la prise en charge des jeunes concernés à l'hôpital, mais également l'accent qui est mis sur ce qu'on appelle l'autodétermination. Jacqueline Eustache-Brignaud part du principe que le consentement n'est pas le même avant 18 ans qu'à l'âge adulte et que les mineurs risquent de prendre des décisions irréversibles que certains pourraient regretter plus tard. Alors, Claire Van Dendrich, qui est coprésidente du réseau de santé trans, rappelle toutefois que s'il y a la détransition, reste, si elle existe, reste très rare. Et elle dénonce d'ailleurs un futur projet de loi qui, pour elle, est probablement le pire, le plus transphobe d'Europe. Pour ce qui est de l'interdiction des bloqueurs de puberté, les rapporteurs s'appuient sur le manque d'études scientifiques concernant les effets secondaires des traitements proposés et ou leur réversibilité. Ils ajoutent également que la Grande-Bretagne les a interdits récemment. Alors, il a noté cependant que ces traitements sont utilisés depuis les années 70, notamment dans le cadre de la puberté précoce, sans que ça pose le moindre problème.
Donc, juste pour
Marie
qu'on soit
Zrietzia.
clair, là, pour qu'on soit clair, donc une personne mineure qui souffre d'une puberté qu'on appelle puberté peut-être trop rapide, on peut le traiter pour ça, mais une personne qui a besoin de traitement pour la transition ou pour prendre sa décision sur sa transition, ça, on ne peut pas le faire.
Non, enfin, en
Bon.
tout cas, c'est ce que prévoirait le futur projet de loi.
D'accord.
Donc, pour ce qui est donc Marie Zrizza, qui est la présidente de l'association Grandir Trans, il est bien évident que ces parcours doivent être encadrés par des médecins formés, mais elle ajoute qu'interdire les bloqueurs de puberté chez les plus jeunes, c'est condamner à mort les adolescents trans. Hein. Il faut rappeler que les personnes transgenres sont plus exposées au risque d'idées et de conduites suicidaires que les personnes cis.
C'est la même chose ici au Québec. Mais le rapport va plus loin sur la question médicale, là.
Tout à fait, hein, puisqu'il préconise également d'abandonner ce qu'on appelle la circulaire Blanquer, qui est un texte qui permet un meilleur accompagnement des élèves trans. Alors, ça a été qualifié de wokisme par les sénateurs LR qui accusent cette circulaire d'avoir fait basculer l'institution scolaire dans le cadre dans le camp, pardon, d'une idéologie trans. Et ils demandent également l'interdiction des interventions des associations concernées en milieu scolaire qui, selon eux, ne respectent pas le principe de neutralité. De même, ils exigent que tous les documents administratif ne comporte que la mention de sexe masculin ou féminin.
Aïe, aïe, aïe. Mais comment Jacqueline Eustache-Brignaud a-t-elle présenté son projet?
Alors, j'avoue que ça m'a glacé le sang quand j'ai entendu en parler, hein. C'est avec une déconcertante assurance qu'elle est venue présenter son rapport et le futur texte de loi sur les plateaux télé. Et on a pu l'entendre, dire que la transidentité était un phénomène de mode contre lequel il fallait protéger les plus jeunes, qu'on ne pouvait pas autoriser, les enfants à des opérations irréversibles, qui leur feraient, qu'ils pourraient regretter par la suite.
Alors, est-ce que ce projet de loi pourrait être adopté?
C'est très difficile à dire. Concrètement, comme j'ai déjà expliqué, pour qu'une loi passe en France, il faut qu'elle soit validée et votée au sein de l'Assemblée nationale. Et moi, je ne sais pas si une majorité serait disposée à valider le texte. Ça inquiète cependant les associations trans ici en France, hein, puisqu'elles demandent que le Comité consultatif national d'éthique ou la Haute Autorité de santé se prononce vraiment sur la prise en charge des personnes trans avant même que les élus n'aient pu étudier le projet de loi.
Bon, le Sénat français, est-ce qu'ils prennent toujours ce genre de mesures?
Non, heureusement, il y a des projets de loi et des mesures qui vont dans le bon sens. On a appris la semaine dernière qu'un projet de loi avait été déposé par le groupe écologiste dans le but de simplifier le changement de genre à l'état civil. Pour ce faire, il serait plus obligatoire de passer devant un juge, mais le changement pourrait se faire directement en mairie. Alors, cette mesure d'autodétermination, hein, ça fait partie des choses pour lesquelles militent actuellement les associations trans en France. Donc, l'espoir reste permis, hein, même si on le voit et on le constate, que ce soit ici en France, mais aussi ailleurs dans le monde, les droits des communautés trans sont particulièrement fragilisés.
Ben, parlant de fragiliser, une autre agression homophobe particulièrement violente s'est déroulée à Paris.
Ouais, elle a eu lieu le 15 mars dernier, donc dans un bar du 10e arrondissement de la capitale. La victime s'appelle Amos. Alors, c'est un jeune homme de 19 ans, originaire de la République démocratique du Congo, un pays qu'il a quitté en 2023, hein, pour échapper au harcèlement qu'il subissait de la part de sa famille, mais également des violences liées à son orientation sexuelle. Alors, ce qui s'est passé, hein, c'est qu'Amos a parlé à voix haute de la relation qu'il entretenait avec son compagnon actuel, et il a été pris à partie par un homme qui lui a dit simplement les gays, vous ne pouvez pas vous asseoir ici, avant de lui jeter le contenu de son verre à la figure, mais également une bouteille. Alors, ce qu'il a réussi à éviter de justesse, et un groupe de 6 personnes ont déboulé pour lui asséner des coups. Alors, il a tenté de quitter le bar, il a réussi à s'enfuir, mais il est tombé sur le trottoir. Il a été rattrapé par ses agresseurs qui l'ont à nouveau tabassé. Ils ont arraché également ses vêtements, ils lui ont baissé le pantalon. Et il ne doit son salut et sa vie hein, qu'à l'intervention d'un passant qui est intervenu en criant qu'il allait appeler la police. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette agression a été filmée et qu'elle a été diffusée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, ajoutant à la violence physique l'humiliation. Amos a porté plainte hein, et le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence en réunion en raison de l'orientation sexuelle, ce qui est très rare parce que dans ce cadre d'agression, le caractère homophobe est rarement reconnu. Pour l'instant, il n'y a aucune interpellation qui a été effectuée.
Donc, des agressions, là, il y en a à Paris, mais il y en a partout ailleurs en France.
Ouais, c'est un phénomène qui est en constante augmentation. Alors, le deuxième cas dont je vais parler se passe le 22 mars à Nice, où un référent de l'association SOS Homophobie a été agressé verbalement et physiquement dans un bar, là aussi, où il s'apprêtait à rejoindre ses amis. 3 jeunes l'ont violemment pris à partie en lui assénant des injures à caractère homophobe. Ils l'ont immobilisé pour lui asséner des coups au visage et à la tête avant que d'autres agresseurs les rejoignent pour continuer à le frapper. Alors, le jeune homme a dû passé la nuit aux urgences. Hein. Il a été victime d'un traumatisme crânien et facial, ainsi qu'un psychotraumatisme. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'a pas pu porter plainte le jour même, mais le lendemain. En effet, le jour de son agression, le policier devant lequel il s'est présenté a refusé tout simplement de prendre en compte sa déclaration de violence hein, qu'il avait subie. Ce qu'il faut savoir, c'est comme je le disais, hein, ces faits d'agression liés à la communauté LGBT sont en augmentation totale. Selon la préfecture de police de Paris, en 2023, on a recensé 631 faits d'agression contre les personnes LGBT. Il y en avait eu 531 en 2022, ce qui représente une augmentation de 19% en un an. Et ce qu'il faut savoir, c'est que seuls 123 de ces affaires ont été élucidées.
Allons-y rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps, mais il y a donc à Bordeaux plusieurs personnes qui sont décédées à la suite de pratiques de chemsex, d'utilisation
Et
de drogue pendant les relations sexuelles.
ouais, alors en l'espace d'une semaine, ce sont 2 personnes qui sont décédées, 2 autres qui ont dû être hospitalisées. Hein. Donc c'est assez impressionnant. Alors, a priori, les affaires n'ont pas lien entre elles, hein, mais elles ont toutefois un dénominateur commun. Bah, comme tu le disais, c'est les rapports sexuels sous l'emprise de la drogue. Selon les enquêteurs, les 2 hommes qui sont décédés entretenaient une relation depuis 3 ans et consommaient régulièrement des produits stupéfiants du type GHB ou 3MMC. Et les autopsies ont révélé, ont conclu à une cause médicale indéterminée, mais excluant toute intervention d'un tiers. Un peu plus tard, c'est un homme qui a été retrouvé, lui, inconscient chez lui, dans son appartement, où l'on a retrouvé un certain nombre de produits stupéfiants. Alors, à sa sortie de l'hôpital, il a déclaré se fournir sur les sites internet en commandant notamment ses produits hein, sur un site néerlandais, mais également directement dans la ville de Bordeaux. Il s'est dit addict au chemsex, pardon, et organisateur de soirées durant lesquelles il vendait ses produits. Bon, il a été mis en examen hein, pour importation, acquisition, offre et cession de manière illicite de produits stupéfiants. Il y a une troisième affaire hein, durant laquelle un homme a fait un malaise à son domicile alors qu'il se trouvait en compagnie de deux individus qui ont contacté les secours et il doit sa vie à cette intervention. Ils ont déclaré avoir consommé de la 3MMC. Voilà.
Mais on va devoir se quitter là-dessus, Christophe Gérard. Christophe Gérard à Paris, merci beaucoup.
Ben, je t'en prie, je te souhaite une bonne soirée et à très vite.
À très vite.